Bien, si vous voulez, on va commencer. J'ai marqué ici au tableau les 4 premiers séminaires du cours de cette année. Tout à l'heure, nous aurons le grand plaisir d'avoir parmi nous, il est déjà d'ailleurs parmi nous, je suis heureux de le saluer ici, le professeur Ted Hensch du Max Planck Institute de Garching et de l'Université de Munich, qui va nous parler de Coherent Matter Waves in Microscopic Tracts. Un développement récent très important permettant de faire des condensats dans des petites structures miniatures. La semaine prochaine, le 9 octobre, ce sera Philippe Lozière, qui est professeur honoraire au Collège de France et qui est à l'ILL à Grenoble, qui nous parlera de condensation de Bose-Einstein et supraconductivité. Le 16 octobre, ce sera Roger Ballian, qui est au service de physique théorique au Centre d'études de Saclay, qui nous parlera d'un modèle simple exhibant la réduction du paquet d'ondes, en liaison donc avec le problème de la mesure. Le 23 octobre, ce sera Christophe Salomon, que nous voyons ici, du laboratoire Castère-Brossière, qui nous parlera de mélange d'isotopes du lithium ultra-froid, un condensat au milieu d'une aire de Fermi. Donc aujourd'hui, j'aborde donc le cours de cette année. Je vous ai distribué des notes. Elles sont un peu volumineuses aujourd'hui parce qu'elles contiennent, comme d'habitude, le rapport d'enseignement du cours de l'année précédente. Vous verrez donc un résumé détaillé du cours de l'année précédente. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est faire un petit peu un rappel, une introduction générale à la condensation de Bose-Einstein pour rappeler les équations importantes, essentielles, dont j'aurai à me servir au cours de l'année. Et donc, je vais essayer de le faire donc le cours par... ce système-là. Voilà. Donc, je vais... ici, c'est le plan général de ce cours. Je voudrais d'abord vous rappeler comment on peut décrire le condensat dans le cadre d'une théorie de champs moyens et introduire les équations de Gross-Pitaïevski indépendantes du temps, qui jouent un rôle central dans ces problèmes. Je voudrais ensuite mentionner les longueurs caractéristiques importantes du problème, puis les différents régimes, en particulier le régime des interactions fortes, qu'on appelle la limite de Thomas-Fermi. Puis je voudrais dire quelques mots sur le nuage thermique, parce que je passerai un certain temps cette année à comparer les vibrations du condensat et les vibrations du nuage thermique. Ensuite, je poserai le problème très général, comment sonder le condensat. Et je passerai en revue d'abord très rapidement ce que j'ai fait l'an dernier, où on étudie la diffusion d'une particule photon ou atome par le condensat, où on introduit les facteurs de structure, et ce que je ferai plus en détail cette année, qui sont étudier les modes propres de vibration du condensat, ce que je fais ensuite, et voir comment ils sont modifiés, par exemple, par la présence d'un vortex, ou comment ils sont modifiés à cause de la superfluidité. Et enfin, je passerai en revue les problèmes physiques importants qui se posent, et je ferai le plan du cours de cette année. Voilà donc le plan général de ma séance. Et je vais commencer, si vous voulez, par quelques rappels donc sur les théories de champs moyens. D'abord, très rapidement, ce qui se passe en l'absence d'interaction. Si on a des bosons identiques confinés dans un piège harmonique de fréquence ω0x, ω0y, ω0z, quand on diminue la température, quand on atteint une température qu'on appelle la température critique, et qui est donnée par cette formule, KBTC égale 0.94 h bar ω0 bar ou ω0 bar est la moyenne géométrique des trois fréquences n à la puissance 1 tiers. Quand on arrive à cette température et qu'on descend en dessous, un nombre macroscopique de bosons se condense dans l'état fondamental. Et on a la formule bien connue, N0 sur N égale 1 moins T sur TC au cube. Une petite remarque avant d'aller plus loin, le N puissance 1 tiers qui est ici montre qu'à la température critique, l'énergie thermique KBTC est plus grande que l'énergie qui sépare deux niveaux de l'oscillateur harmonique par une quantité N puissance 1 tiers. Donc c'est beaucoup plus grand que H bar oméga 0, donc la condensation de Bose-Einstein n'est pas un effet thermique trivial. Ce n'est pas parce que le facteur de Boltzmann devient, HMI devient, KT devient très petit devant HMI. Alors, en présence d'interaction, il faut partir de l'Hamiltonien H, qui est la somme des énergies cinétiques, des N bosons, la somme des énergies de piézage et la somme des énergies d'interaction, 1/2, somme sur I, différent de I, de V, de RI moins RJ. Une approximation couramment utilisée dans ce type de problème, et que j'ai eu l'occasion de discuter très en détail il y a 2 ans ou 3 ans, c'est l'approximation du pseudo-potentiel, où on remplace V par un potentiel à très courte portée, avec un coefficient de couplage, V, qui est 4 pi h bar 2 sur M, fois A. A est la longueur de diffusion, ça caractérise entièrement les interactions à très basse température, quand la longueur d'onde de De Broglie devient beaucoup plus grande que la portée du potentiel. Alors, en principe, les particules se condensent dans l'état fondamental de H, qui est difficile à calculer exactement, on le calcule de manière approchée, et les théories de champ moyen reviennent à approximer H, l'état fondamental de H, par un état produit où tous les bosons sont dans le même état phi, phi de 1, phi de 2, phi de n, et la question qui se pose bien sûr, c'est quel est le meilleur état phi qu'on peut choisir pour décrire le système par un état de ce type. On tombe sur un calcul de variation, type par phi forte, et le meilleur phi, c'est celui qui minimise la valeur moyenne de H, phi h phi sur phi psi, et quand on écrit ceci, on tombe sur une équation, moins h bar 2 sur 2m, laplacien plus v extérieur de r, phi de r, plus n moins 1, g phi de r en module carré phi de r, égale v phi de r. Ça ressemble à une équation de Schrödinger, mais ce n'en est pas une. C'est une équation non linéaire qui décrit comment chaque particule évolue dans le potentiel de piézage et dans un potentiel n moins 1 g phi de r au carré, qui est le potentiel moyen créé par les n moins 1 autres particules. Alors, c'est une équation émue ici dans cette équation, c'est le potentiel chimique. Et comme n est très grand dans 1, je remplacerai n moins 1 par n. Donc, c'est l'idée, donc, on décrit l'interaction sous forme d'interaction avec le champ moyen créé par les autres particules. Alors, cette équation de Gross-Pitewski, indépendante du temps, se généralise. On peut poser le problème et chercher la meilleure fonction phi de R et de T qui décrit le système des N bosons quand le potentiel extérieur, par exemple, dépend du temps, quand on le coupe ou quand on le module. Et à ce moment-là, on cherche la meilleure fonction d'onde et on trouve, là aussi, par la méthode variationnelle, que la meilleure fonction d'onde obéit à une équation qui rappelle celle-là, parce qu'il y a IH bar B sur DT de phi, et la même quantité ici, et ça c'est l'équation de Gross-Pitewski dépendant du temps. Donc ces deux équations, c'est vraiment les équations de base. Alors, il y a plusieurs manières d'attaquer ensuite ce problème, d'utiliser l'équation de Gross-Pitewski dépendant du temps. Alors, une première manière, c'est comme c'est une équation non linéaire, si le potentiel est la somme d'un potentiel indépendant du temps, V0 de R, plus une petite perturbation dépendant du temps, alors j'explique dans les notes, il y a ici, c'est V extérieur, en fait, il y a une erreur, c'est V0 de R. Je m'excuse, il y a beaucoup de coquilles dans ces notes que je vous distribue, parce que je suis obligé pour des questions de délai de les donner une semaine à l'avance. Après, quand je parle pour la présentation orale, je m'attache à des erreurs, donc elles sont corrigées sur l'ordinateur, elles sont corrigées sur les notes qui vont être disponibles sur le web, mais elles ne sont pas forcément corrigées sur les notes de cours. Donc, je m'en excuse, je pourrais vous distribuer les notes après, mais je pense que vous préférez les avoir pendant le cours, donc je continue comme ça, mais je m'excuse par l'avance. C'est très difficile d'éviter les coquilles qu'on veut aller vite et qu'on a des cours à préparer les uns après les autres. Donc, on part de cette chose-là, on linéarise l'équation de Gross-Pitewski par rapport à la solution indépendante du temps. Et si donc on pose phi égale phi tilde et puissance moins unité sur h bar avec phi tilde égale phi 0 plus delta phi où phi 0 est la solution de l'équation de Gross-Pitewski pour indépendant du temps, pour V0, à ce moment-là, on trouve que delta phi et delta phi étoile obéissent à des équations linéaires où ceci est un terme source dépendant de delta v et LGP, c'est un opérateur qui est donné par cette expression et ces équations qui sont là portent le nom couramment d'utiliser de Bogoliubov de Gênes. C'est les équations qui généralisent un système inhomogène, les équations bien connues de Bogoliubov, qui a été le premier à introduire cette linéarisation du problème autour d'une position donnée. Bon, j'insiste pas beaucoup là-dessus parce que je ne les utiliserai pas dans la suite. Par contre, j'insisterai beaucoup plus sur ce point-là. Une autre forme équivalente de l'équation de Gross-Pitewski consiste à séparer dans la fonction d'onde phi une amplitude qui est la racine carrée de la densité spatiale et puissance IS. Et une phase S. si on prend cette décomposition avec phi, rho de r et de t, et f de r et de t, si on prend donc cette forme ici et qu'on la met dans l'équation de Gross-Pitaïsky dépendant du temps, en regardant ce qui se passe pour la partie réelle et la partie imaginaire, donc il y a deux équations, l'une pour rho et l'autre pour f. Alors l'équation pour rho a cette forme, v sur dt de rho plus divergence de rho alpha sur m gradient s égale 0, et cette équation a la forme d'une équation de continuité est conduit à interpréter alpha sur m gradient s comme un champ de vitesse v, v de r et de t. Alors ça aussi c'est très important. Le champ de vitesse, donc ça va être v égale h bar sur m gradient s. Alors comme le rotationnel d'un gradient est nul, le rotationnel de v est nul, donc c'est un champ irrotationnel. Attention, s'il y a un vortex, c'est plus vrai le long de lignes singulières qui sont le centre du vortex. La ligne, mais partout ailleurs, rotationnel de V égale 0. Ça ressemble tout à fait au champ magnétique créé par un courant. Et le rotationnel de B est parti nul, sauf à l'endroit où à le courant, la rotationnel B égale 0. Alors, je reviendrai là-dessus. Ça sera un peu le sujet du cours cette année. C'est d'étudier un petit peu les propriétés du champ de vitesse, par exemple, qu'on fait tourner un condensat. L'autre équation, c'est l'équation du mouvement de V, d'abord de S, et elle est écrite ici, h bar d sur dt de S égale h bar 2 sur 2m, 1 sur racine de rho, laplacienne de racine de rho, moins h bar 2 sur 2m, gradient S au carré, moins V extérieur, moins 0, et en prenant, en multipliant haut et bas par m, on voit apparaître h bar sur m, d sur dt de S, et en prenant le gradient, c'est m, d sur dt de V, et ce gradient de la même quantité qui est ici. Alors ces deux équations, l'équation de continuité et l'équation du mouvement du champ de vitesse, rappellent beaucoup des équations hydrodynamiques, mais attention, ici le caractère hydrodynamique n'est pas lié à des collisions entre les bosons qui établissent une sorte d'équilibre thermodynamique local, elles sont liées au champ moyen. C'est des équations hydrodynamiques liées au champ moyen. C'est le champ moyen exercé par les n-1 bosons sur un d'entre eux qui donne l'essence donc à ce mouvement. Alors, voilà donc ces choses introduites. J'arrive maintenant à un deuxième point, qui est quelles sont les longueurs caractéristiques du problème. Alors, une première longueur, bien sûr, c'est la longueur de diffusion, petit a, qui caractérise les interactions et qui est de l'ordre de grandeur, disons, de la portée des interactions. Une deuxième grandeur importante dans tout ce problème, c'est ce qu'on appelle la longueur de relaxation, en anglais healing length, qui est une longueur psi, définie par le fait que c'est la distance psi pour laquelle l'énergie cinétique de confinement, h bar 2 sur 2m psi 2, donc si j'ai des particules qui sont localisées dans un volume de dimension psi, l'énergie cinétique de confinement est h bar sur 2m psi 2, et la longueur de relaxation, c'est la valeur de psi pour lequel cette énergie cinétique de confinement est de l'ordre de grandeur de l'énergie d'interaction g0,0. Donc on écrit que h bar 2 sur 2m psi 2 de l'ordre de grandeur de g0,0, on obtient cette formule, psi égale h bar sur racine de 2m g0,0, 1 sur racine de 8 pi a rho0. Ça c'est une deuxième grandeur, et une troisième grandeur pour les condensats inhomogènes, qui sont ceux qui sont étudiés le plus souvent dans ce type de problème, qui sont les condensats dans un piège, c'est bien sûr l'extension de l'état fondamental du piège, racine de h bar sur m oméga 0. Donc c'est ces trois grandeurs qu'il faudra constamment avoir présent à l'esprit quand on discute, disons, de ce type de problème. Alors maintenant, je vais passer à un point suivant qui est une chose importante, qui est la limite de Thomas Fermi. Alors, la limite de Thomas Fermi est une limite correspondant à une situation où l'énergie cinétique de confinement dans l'état fondamental du piège, si on a un piège qui a une dimension sigma 0, donc on a une énergie cinétique de confinement qui est h bar 2 sur 2m sigma 0 carré, est petite devant l'énergie d'interaction g, la constante de couplage, rho 0, la densité au centre du piège. Et rho 0, c'est de l'ordre de grandeur de n, le nombre total de particules, divisé par le cube de la dimension de l'état fondamental du piège, sigma 0 carré. Alors, sigma 0 carré, ça simplifie avec il y a sigma 0 2 qui s'en va. Je remplace G par 4 pi h bar 2 sur m, les h bar 2 sur m s'en vont, et je m'aperçois, je vois apparaître un paramètre très important, sans dimension, qui est a sur sigma, longueur de diffusion sur dimension de l'état fondamental du piège, qui multiplie n. Si ce paramètre est grand, l'énergie cinétique de confinement est négligeable devant l'énergie d'interaction, et dans l'équation de Gross-Pitevsky, on peut revenir un peu rapidement en arrière, voilà ici, je peux négliger ce terme-là, je représente l'énergie cinétique. À ce moment-là, l'équation devient une équation algébrique, et en divisant par phi de r, j'obtiens une équation qui va me donner algébrique, qui va me donner phi de r à modulo carré, c'est-à-dire la densité spatiale. Et l'équation donc de Gross-Pitevsky devient une équation algébrique et conduit à une expression suivante pour rho, rho de r égale n phi de r au carré, égale 1 sur g, la constante de couplage, nu moins 1/2 de m oméga 0 x au carré x2, qui déterme analogue pour y et pour z, ça a la forme d'une paraboloïde, d'un paraboloïde inversé, complètement différent d'une exponentielle de Maxwell-Boltzmann. C'est une forme typique des condensats. Alors, dépendance en n, on peut à ce moment-là calculer le potentiel chimique mu en écrivant que rho est normé à n, en écrivant que l'intégrale de ceci est égale à n, et on trouve que le potentiel chimique varie comme 2n à la puissance 2 cinquième, et que le rayon du condensat varie comme n à la puissance 1 cinquième. En d'autres termes, s'il n'y a pas d'interaction, tous les exposants sont condensés dans l'état fondamental du piège, et le rayon du condensat est indépendant de n. Puis quand les interactions commencent à devenir importantes, le condensat gonfle, et il gonfle comme n à la puissance 1 cinquième. Autre remarque, la condition A sur sigma 0 n très grand devant 1, définissant la limite de Thomas Fermi, n'est pas incompatible avec une autre condition, A cube rho 0, c'est-à-dire A cube n sur sigma 0 cube, très petit devant 1, parce que vous voyez ici j'ai A sur sigma 0, ici j'ai A sur sigma 0 cube, comme A sur sigma 0 est très petit devant 1, A sur sigma 0 cube est beaucoup plus petit que A sur sigma 0, et on peut avoir à la fois AN sur sigma 0 très grand devant 1, et A cube rho 0 très petit devant 1, c'est-à-dire qu'on peut avoir un milieu dilué, où la distance moyenne en particulier est beaucoup plus grande que la portée des interactions, tout en ayant un effet des interactions important. C'est ça qui fait, je crois, l'intérêt des condensats de Bose-Einstein, c'est qu'ils permettent d'étudier sur des milieux dilués des effets spectaculaires liés à l'interaction entre particules. Alors, autre point qui est important, c'est qu'à la limite de Thomas Fermi, les équations hydrodynamiques précédentes que j'ai écrites tout à l'heure se simplifient considérablement. En effet, si je reviens en arrière pour avoir l'équation hydrodynamique pour S, je vois apparaître ici laplacienne de racine de rho sur racine de rho, donc ça c'est 1 sur psi, c'est 1 sur R2, où R est le rayon du condensat, et je vois apparaître ici h bar 2 sur 2m R2. Donc ça c'est le terme d'énergie cinétique. Et s'il est petit devant 0, je peux le négliger. Et ce terme, c'est ce qu'on appelle en fait le terme de pression quantique. Donc à la limite de Thomas Fermi, on peut négliger ce terme, et l'équation pour S, c'est ce dont j'aurais besoin tout à l'heure, devient très simple, s'écrit h bar 2, h bar sur d sur d, ds sur dt, égale moins h bar 2 sur 2m, gradient s au carré, moins v extérieur, moins g rho. Donc, à la limite de Thomas Fermi, l'équation pour elle devient comme ceci. L'équation pour rho, bon, elle ne change pas. D sur dt de rho plus divergence de rho v égale 0. Je laisse les équations en tableau parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Et en prenant le gradient de celle-là, de cette équation qui est ici, j'obtiens l'équation pour v qui est donnée par ceci. Et cette équation pour V, on peut encore la transformer, lui donner une signification extrêmement claire. En utilisant des formules de calcul vectoriel, on peut montrer que m d sur dt de V plus gradient de 1/2 de mv2, c'est m d sur dt de V plus v gradient V, qui est autre que la dérivée totale de V. Et on obtient que la dérivée totale de V, c'est-à-dire qu'on prend une particule, qu'on la suit dans son mouvement et qu'on calcule l'accélération de cette particule, qu'on la suit dans son mouvement, on trouve que c'est égal à moins gradient de V extérieur, qui est la force extérieure, moins gradient de 0 qui est la force exercée sur la particule par les autres. Si la densité n'est pas homogène, il y a une force qu'on peut appeler une pression, une force de pression, et on obtient donc une équation qui est tout à fait analogue à l'équation de l'air de l'hydrodynamique. Bon, voilà les nuages Thomas Fermi. Je passe maintenant pour dire quelques mots sur le nuage thermique. Alors, le nuage thermique, son ordre de grandeur de dimension, on écrit que l'énergie potentielle M oméga 0 carré R thermique au carré de l'ordre de KBT, donc ça me donne R thermique au carré de l'ordre de KBT sur M oméga 0 2. Alors là, je m'excuse, j'ai plein d'erreurs. J'ai oublié, oui, R thermique, oui, j'ai rajouté sur les transparents de l'ordinateur R thermique au carré, j'ai oublié sur les notes le carré ici, et il y a un sigma 0 2 ici. Alors, en l'absence d'interaction, le rayon du condensat vaut sigma 0. À la limite de Thomas Fermi, en présence d'interaction forte, il varie à n puissance 1/5. Pour le nuage thermique, en l'absence d'interaction, il vaut sigma 0 n puissance 1/6. Il est beaucoup plus grand que sigma 0, et je n'ai pas calculé ici comment le nuage thermique gonfle sous l'effet des interactions. Donc je supprime la dernière phrase, il est toujours plus grand, parce que je n'ai pas calculé aussi le rayon du nuage thermique en présence d'interaction. Alors, néanmoins, je vais faire un cran plus loin et je vais me poser la question, quel est l'effet du champ moyen sur le nuage thermique? Alors, pour cela, on raisonne de la manière suivante. En l'absence d'interaction, et pour C de l'ordre de TC, quand on est au seuil de condensation, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle sont égales et de l'ordre de KBT. Donc, j'ai KBTC de l'ordre de M0 carré R rayon thermique au carré. Et ça, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est h bar oméga 0, n à la puissance 1 tiers. Voilà donc l'ordre de grandeur en l'absence d'interaction de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Maintenant, quelle est l'énergie d'interaction due au champ moyen? C'est G rho, où G est la constante de couplage, et rho, c'est la densité du nuage thermique, c'est n, le nombre total de particules. Je suppose qu'il n'y a pas de condensat, hein, que j'ai uniquement le nuage thermique, je suis légèrement au-dessus de TC, n sur R thermique, c'est au carré. Et on peut comparer maintenant l'énergie d'interaction, l'énergie en l'absence d'interaction, cinétique et potentielle, à l'énergie d'interaction W. Quand je divise ça par ça, je peux apparaître Gn sur M0 cube R thermique au carré, à puissance 5, N, j'ai N ici, R thermique c'est N à la puissance 1 sixième, donc N sur N 5 sixième, je vois apparaître N puissance 1 sixième, et tout le reste, les seules choses qui peuvent apparaître, une grandeur sans dimension, c'est A sur sigma 0. Donc, la grandeur, le paramètre qui caractérise l'effet du champ moyen par rapport à l'énergie cinétique et potentielle habituelle, c'est un nouveau paramètre que j'appellerai qui thermique, c'est A, n à la puissance 1 sixième sur sigma 0. Alors que pour le condensat, j'avais écrit condensat égale A sur sigma 0, n. Donc vous voyez, ce ne sont pas les mêmes paramètres qui caractérisent la valeur relative de la force d'interaction, de l'énergie d'interaction par rapport à l'énergie cinétique et potentielle. Comme, si je prends par exemple N égale 10 puissance 6, ça, ça vaudra 10 puissance 6, ça, ça vaudra 10. Donc, qui thermique est beaucoup plus petit que qui condensat. Et, donc, en introduisant ces deux paramètres, on peut avoir très facilement qui condensat très grand devant 1, et qui thermique très petit devant 1, on peut donc la plupart du temps être dans des situations où le champ moyen se manifeste de manière importante sur le condensat, mais peut-être ignoré pour le nuage thermique. On peut le traiter comme un gaz parfait. D'accord? Parce que ce n'est pas la même dépendance à n. L'un varie proportionnellement à n, l'autre comme n à la puissance 1 sixième. Alors, il y a aussi des collisions. Caractérisé par une section efficace de collision sigma col égale 8 pi à 2, un libre parcours moyen L égale 1 sur sigma rho 0, un temps entre collision qui est le libre parcours moyen divisé par la vitesse moyenne thermique, c'est 1 sur sigma col rho 0 V, et un paramètre très important qu'il faut introduire donc pour caractériser les collisions, c'est le nombre de collisions subi par un atome pendant une période d'oscillation, c'est 1 sur oméga 0 taux collision. Alors, on remplace taux collision par son expression ici, et on remplace V par oméga 0 R thermique, et on obtient donc 1 sur oméga 0 taux collision, qui est aussi de l'ordre de grandeur de R thermique sur L. Et on voit apparaître ici un troisième type de paramètre, qui est A n puissance 1 tiers sur sigma 0 au carré. Donc il y a trois paramètres. Un paramètre A n sur sigma 0 qui caractérise l'effet du champ moyen sur le condensat. Un paramètre A n puissance 1 sixième sur sigma 0 qui caractérise l'effet du champ moyen sur le nuage thermique. Et un paramètre A n puissance 1 tiers sur sigma 0 au carré qui caractérise l'effet des collisions. Et dans le nuage thermique, il y a deux grands régimes qu'on peut considérer. C'est le nuage, le régime balistique sans collision, où pendant une période, le temps moyen de collision est beaucoup plus long que la période d'oscillation, oméga 0 sous col très grande devant 1, qui est équivalent à un rayon du nuage thermique beaucoup plus petit que le porte moyen, et un régime hydrodynamique où au contraire on a beaucoup de collisions pendant une période d'oscillation, et donc un lit parfois moyen beaucoup plus petit que le rayon du nuage thermique. Et dans ce cas-là, dans le régime hydrodynamique, un équilibre thermodynamique local peut être atteint en chacun du nuage. Et j'aurai l'occasion dans le cours de cette année de revenir sur ces deux régimes et d'étudier en particulier la transition d'un régime à l'autre pour le nuage thermique. Alors, j'aborde maintenant un autre point donc de rappel, c'est comment sonder le condensat. Alors, les méthodes qui se rapprochent le plus de celles qui sont utilisées en matière condensée pour étudier les lithiums superfluides ou les supraconducteurs, c'est la diffusion d'une particule par le condensat, une particule qui peut être un photon, un atome, un neutron par exemple, pour la diffusion de neutrons joue un rôle très important pour tout ce qui est helium meeting. Et quand on fait diffuser donc une particule par le condensat, on transfère au condensat une énergie alpha oméga, qui est la perte d'énergie de la particule diffusée. On transfère une impulsion alpha phi, qui est la perte d'impulsion. Et on calcule comment on observe les variations du nombre de particules diffusées quand on fait varier le transfert d'énergie oméga à Q fixé. On détermine ainsi le spectre des excitations élémentaires du condensat. On détermine la relation de dispersion oméga égale F de Q. Et on détermine deux quantités très importantes, qui sont le facteur de structure dynamique S de Q et d'oméga, et le facteur de structure statique S de Q, qui est l'intégrale de S de Q d'oméga sur oméga. Alors, ces deux fonctions, je les ai étudiées très en détail en dernier, j'ai étudié leurs propriétés, leur symétrie, leur signification physique. Je vous rappelle ici simplement que S de Q et d'oméga, c'est la transformée de Fourier spatio-temporelle par rapport à l'espace et par rapport au temps, d'une fonction de corrélation de la densité de particules qui décrit comment les densités en deux points différents du fluide, comment elles sont corrélées à deux points différents et à deux instants différents. Quant à S de Q, l'intégrale sur oméga de S de Q d'oméga, à la limite où le transfert d'énergie oméga est très petit devant l'énergie incidente de la particule diffusée, on peut montrer que c'est la transformée de Fourier spatiale de la fonction de distribution à deux corps. La probabilité, ayant une particule en un point, de trouver une autre à une distance R. Donc ces deux fonctions sont très importantes. La fonction de corrélation spatio-temporelle des fluctuations de densité et la densité à deux corps, elles sont déterminées donc par études de diffusion. Alors, pour les condensats de Bose-Einstein, une des diffusions qui sont le plus couramment utilisées, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Bragg, par une terminologie un peu consacrée par l'usage, mais qui est en fait un processus stimulé où on absorbe un photon, K1 oméga 1, où on fait par émission stimulée, on émet de manière stimulée un photon K2 oméga 2. Et donc on transfère une impulsion. C'est pas très beau sur la. On transfère une impulsion S bar Q et une quantité d'énergie S bar oméga. Et vous voyez que si oméga 1, l'énergie du photon incident, et oméga 2 sont très très grandes devant le transfert d'énergie, quand on balaye oméga 2 à oméga 1 fixé, c'est-à-dire qu'on balaye l'extrémité de cette flèche, on change oméga, mais on change très peu Q. Donc c'est ce qu'on appelle une limite quasi-statique. On peut donc varier l'énergie transférée au condensat sans varier beaucoup son impulsion. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on varie l'impulsion transférée en variant l'angle entre K1 et K2. Alors, c'est de cette manière qu'on peut étudier de manière précise les excitations élémentaires d'un condensat homogène. Je rappelle ici cette formule célèbre qui est établie la première fois par Bogodubov, qui donne pour oméga k Bogodubov, h bar oméga k, la formule célèbre racine carrée de h bar oméga k 0, où h bar oméga 0, c'est simplement l'énergie cinétique d'une particule libre, qui multiplie racine h bar oméga k 0 plus mu. Donc pour h bar k oméga 0 très petit devant mu, on peut négliger ça devant mu, et on a quelque chose qui va être proportionnel à racine carrée de k2, on va avoir un départ linéaire en k, avec un coefficient c qui est la vitesse du son. Donc les excitations alimentaires pour les faibles valeurs de k sont des excitations de type phonon, avec une vitesse c racine de mu sur m, rapport du potentiel chimique à la masse. Et pour les grandes valeurs de k, quand h bar oméga k0 est très grand devant mu, en faisant un développement limité de cette quantité, en mu sur h bar oméga k0, on trouve que la relation de dispersion ici tend vers h bar k2 sur 2m plus mu. Donc on retrouve la parabole décalée d'une quantité mu. Alors, l'an dernier, j'ai étudié très en détail les différents types de diffusion qu'on peut avoir, qu'on fait varier le transfert Q. Et j'ai tracé cette figure où Q varie de 0 à l'infini. Et on a trois repères sur cette échelle de Q. Un sur R0, où R0 est le rayon du condensat. Ceci, c'est des excitations dont les longueurs d'onde sont de l'ordre des dimensions du condensat. Ça, c'est ce que j'appelle les modes propres de vibration du condensat. Q de l'ordre de 1 sur Q0, Q0 est la longueur de relaxation, et ça c'est équivalent à h bar oméga Q0 de l'ordre de mu. Donc en dessous de cette valeur, j'ai h bar oméga Q0 plus petit que mu, au-dessus j'ai h bar oméga Q0 plus grand que mu. Donc ici j'ai des phonons, ici particuliers. Et nous avons vu apparaître une troisième borne ici, un troisième repère, qui est R0 sur Q02. Qui est 1 sur Q0 qui multiplie R0 sur Q0, donc qui est beaucoup plus grand que 1 sur Q0. Et ce repère ici correspond à une situation où delta E, la dispersion des énergies d'interaction liées à l'inhomogénéité de la densité spatiale dans le condensat, qui varie de la densité spatiale au centre à la densité spatiale qui est nulle à l'extérieur du condensat, comparer ceci à l'élargissement Doppler lié au fait que quand on a des particules dans un volume R0 cube, l'impulsion de ces particules est de l'ordre de h bar sur mR0, et il y a une dispersion d'impulsion qui est de l'ordre de h bar sur mR0, et il y a donc un déplacement Doppler qui est Q delta P, qui est Q h bar sur mR0, et donc on a un delta E Doppler qui est Q h bar 2 sur mR0. Alors je m'excuse dans les notes, j'ai oublié le 2 ici. Hein. Donc c'est Q h bar 2 sur mR0. Et alors, ici, cette bande ici, qu'on est au-dessus, ça veut dire que l'effet Doppler est beaucoup plus grand que l'effet des interactions, et à ce moment-là, on peut oublier les interactions, on peut décrire donc le condensat en négligeant complètement les interactions, et la largeur de la raie de diffusion reflète uniquement la distribution des vitesses dans le condensat. Au contraire, quand on est ici, dans cette région, l'énergie d'interaction est beaucoup plus grande, l'élargissement des interactions est beaucoup plus grand que l'élargissement Doppler, et on peut négliger le mouvement des atomes. Donc il y a deux régimes, et ça permet donc de faire deux types d'approximations pour Q beaucoup plus grand que cette valeur, R0 sur Q02, c'est ce qu'on appelle l'approximation d'impulsion, impulse approximation en anglais, et à ce moment-là on peut montrer que F de Q de oméga donne accès directement à la distribution des vitesses dans le condensat. Ça c'est très important pour avoir dans les milieux superfluides une distribution des vitesses. Par contre, quand Q est plus petit, beaucoup plus petit que Q Doppler, mais beaucoup plus grand que 1 sur R0, on néglige à ce moment-là le mouvement des atomes, et on peut considérer qu'on a une superposition de condensat homogène avec des densités variables, puisque la densité est inhomogène dans le condensat. Et ça s'appelle l'approximation de densité locale. On calcule le spectre comme si on avait un condensat homogène au point R0, au point R, on le pondère par O de R, et on intègre sur R. Et on obtient ainsi une forme de règle. Et on a donc un élargissement inhomogène dû à une densité inhomogène spatialement. Et enfin, pour Q de l'ordre de Q2, je vous ai démontré par des techniques de règle de somme qu'on peut valablement ajouter quadratiquement la largeur Doppler et la largeur due aux interactions pour interpréter la largeur du spectre de diffusion. Et je décris l'an dernier, en détail, des expériences du groupe de Wolfgang Ketterle à MIT où ils ont étudié le régime donc, de diffusion, à la fois dans le régime Founon, dans le régime particulier, et où ils ont pu tester toutes les idées que je viens de vous résumer très brièvement. Alors, donc ça, c'est, je dirais, ça vient de la physique de la matière condensée, de la diffusion d'une particule. Maintenant, il y a une autre approche qui vient plutôt de la physique atomique, qui consiste à étudier un peu de manière spectroscopique le condensat, qui consiste à étudier ses modes propres de vibration de manière précise, à les mesurer de manière précise par imagerie, et à regarder comment les divers phénomènes physiques qu'on cherche à étudier, tourbillons, superfluidité, se manifestent sur ces fréquences de vibration. Donc on excite les modes propres de vibration en modifiant le potentiel de plaisage, on mesure de manière très précise les fréquences de vibration par imagerie, soit après expansion balistique et absorption, soit in situ par dispersion. Et donc cette démarche est un peu une démarche analogue à celle de la physique atomique. Voilà un exemple de résultat obtenu par Wolfgang Ketterlein ici. C'est une détection non destructive des oscillations d'un condensat de sodium. On voit donc le condensat photographié toutes les 5 millisecondes. Et on voit très clairement que le centre de masse du condensat oscille. Et on voit également que la longueur du condensat est modulée, donc on a excité donc, un mode propre de vibration du condensat. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de l'étude des modes propres de vibration? On va d'abord essayer de voir comment ces fréquences changent quand on passe d'une situation où les interactions sont faibles, qui condensat plus petit que 1, à une situation où les interactions sont fortes, qui condensat plus grand que 1. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut donc, en regardant des phénomènes macroscopiques, comme une fréquence de vibration, avoir accès directement à voir l'importance des interactions sur la partie microscopique. On peut aussi comparer, et je le ferai un petit peu dans certains cas, les fréquences de vibration du condensat et les fréquences de vibration du nuage thermique, voir un peu la signature de la condensation, voir ce qui apparaît à cause de la condensation. En particulier, nous verrons en particulier que la superfluidité du condensat se manifeste par des différences spectaculaires, par exemple dans les modes physiques. On peut aussi étudier la largeur des résonances, ça c'est un autre problème extrêmement intéressant, parce qu'elle donne des informations sur les mécanismes d'amortissement. Alors, je passe maintenant, donc, comment on calcule les fréquences propres? Alors, il y a plusieurs méthodes qui ont été utilisées, que je résume ici très brièvement. Je reviens aux équations que je vous ai données au début de cette séance, les équations linéarisées autour d'une valeur d'équilibre des équations de Gross-Pitaïsky dépendantes du temps, que j'ai appelées les équations de Bogodubov de Gênes. Ces équations sont valables quelle que soit la force de l'interaction, aussi bien pour qui condensat plus petit que 1 que pour qui condensat très grand que 1. Et on les résout numériquement, et on obtient ainsi la valeur des fréquences, et on regarde comment la valeur de ces fréquences de mode propre de vibration évolue quand on augmente la force de l'interaction. Deuxième méthode, on utilise des équations hydrodynamiques pour ρ et V, ou pour ρ et S, à la limite de Thomas Fermi, c'est-à-dire à la limite des interactions fortes. Ça a été fait dans certains cas, en particulier par l'équipe de Sandro Stringari, et on peut à ce moment-là se ramener à des équations d'onde, qu'on peut résoudre par des techniques analogues à celles qu'on utilise pour résoudre l'équation de Schrödinger, pour étudier le spectre de l'atome d'hydrogène, par exemple. On peut trouver les modes propres de vibration. Le problème, c'est que c'est limité à qui condensat très grand grand 1. On peut toujours, dans ce régime qui condensat très grand grand 1, introduire des facteurs de dilatation BI de T pour un condensat dans un piège harmonique, une méthode initiée par, disons, Cassin et Ralph Doom, et obtenir ainsi des équations différentielles non linéaires pour les facteurs de dilatation qu'on peut résoudre. C'est plus commode travailler avec des équations différentielles même non linéaires que des équations d'ondes, des dérivées partielles, et on peut obtenir des informations. Ces deux méthodes, je les ai étudiées en détail dans le cours de 398-399. Enfin, il y a une méthode extrêmement astucieuse, élégante, qui consiste à utiliser ce qu'on appelle les règles de somme, et qui permettent d'obtenir des formules exactes pour les fréquences de vibration, et où on peut comprendre comment on passe continuellement du régime des interactions faibles au régime des interactions fortes. Comme ces règles de somme se révèlent extrêmement utiles pour toute une série de problèmes, en particulier pour les tourbillons quantiques, je consacrerai le cours de la semaine prochaine à vous montrer comment les règles de somme permettent d'étudier les fréquences propres des modes de vibration. Bon, alors, je vais terminer maintenant ce rappel en introduisant un certain nombre de choses nouvelles par rapport à ce que j'ai fait dans les cours précédents, en faisant quelques rappels sur les modes propres de vibration d'un condensat sphérique à la limite Thomas Fermi, petit condensat très grand devant 1. Alors, d'abord, ces équations qui sont là, que j'écris ici pour ρ et pour S, on peut les linéariser autour d'une position d'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'on a un condensat et on peut supposer qu'il vibre avec une amplitude très faible par rapport à sa situation d'équilibre. Alors, j'appelle ρ la densité, qui est ρ0 la densité d'équilibre plus delta ρ, V égale V0 plus delta V, et S, la phase, égale S0 plus delta S. Alors, quelles sont les valeurs d'équilibre? La valeur d'équilibre pour ρ0 est donnée par Thomas Fermi, 1 sur G mu moins 1 demi de M oméga 0 2 R2, je rappelle que je prends ici un condensat sphérique. V0 égale 0, la fonction d'onde de l'état fondamental d'un condensat est réel, donc il n'y a pas de phase, et la vitesse d'équilibre est nulle. Alors, je m'excuse ici, je n'ai pas pourquoi j'ai mis S égale constante, je voulais dire S0 égale indépendant de R. En fait, S0, il y a ici un signe moins qui manque, c'est moins muté sur H bar. Hein. Quand vous prenez l'équation en absence de mouvement, c'est l'équation de grosse vitesse qui est indépendante du temps, et c'est les premières équations sont ouvertes, c'est puissance moins J et T sur H bar, et remplacé ici par mu. Donc ici, je m'excuse, la phase est moins, il y a un signe moins encore qui manque. Bon, alors quelles sont les équations maintenant delta rho, delta V, qui est H bar sur M et delta S. Alors, là encore, c'est une erreur, c'est gradient. Alpha sur S, gradient de delta S, et delta S sont les écarts à l'équilibre. D'accord? Donc ici, un gradient. Alors, au premier ordre, dans delta rho, delta DV, delta S, ce deviennent les équations hydrodynamiques. Alors, je vais écrire ici l'équation hydrodynamique. On a V sur DC de delta rho, je remplace au premier ordre delta rho, rho, V, V, il n'y a pas d'ordre 0. Donc V d'ordre 1, forcément, c'est delta V, il n'y a pas de... Donc forcément, je peux prendre ici rho 0. D'accord. Dans l'équation de continuité, comme V est déjà d'ordre 1, je suis obligé, si je me limite à l'ordre 1, à prendre ρ à l'ordre 0. Donc l'équation de continuité s'écrit D sur DT de delta ρ plus divergence de ρ0 delta V égale 0. Et l'équation de la phase ici, c'est H bar D sur DT de delta S. Delta S, c'est au carré. Donc ça va me donner le gradient de S0 est nul, hein, le gradient est nul, donc la solution d'ordre 0 n'intervient pas, uniquement la solution d'ordre 1, comme c'est au carré, c'est un terme d'ordre 2, donc il n'y a pas compte. Moins V extérieur, moins G, rho 0 plus delta rho, moins V extérieur, moins G, rho 0, ça c'est une constante. Et puis j'ai ici, moins G delta rho, donc plus G delta rho égale 0. D'accord? Et en prenant le gradient de ça, j'ai M D sur DT delta D plus G gradient delta rho égale 0. J'ai donc voici les équations linéarisées pour rho, delta rho, delta S et delta D. Alors, si j'élimine delta V, vous voyez cette équation et cette équation, c'est deux équations linéaires pour delta V et delta rho. Si j'élimine delta V en ces deux équations, donc, il y a une équation d'onde pour delta rho, qui est une équation de dérivée partielle du deuxième ordre, et on peut chercher ces solutions harmoniques exactement comme on cherche les solutions, les fonctions propres d'une équation Schrödinger. Ça a été fait par Singari dans cette référence. Et le résultat est le suivant. Rho, c'est rho 0, la densité d'équilibre, plus delta rho, trois nombres quantiques, nr, lm, et puissance moins j oméga de nr et de lt plus complexe conjugué. Alors, qu'est-ce que c'est que delta rho nr ln? Delta rho, c'est pnrl, où pnrl est un polynôme pair en r de degré 2nr. Donc nr, c'est un nombre quantique, en fait, c'est le nombre de nœuds de la dépendance radiale, c'est le nombre de nœuds de cette fonction. Et puis le reste, c'est rl, r à la puissance l, yln de θ phi, yln de θ phi, c'est l'harmonique sphérique. Et on sait écrire analytiquement la fonction, la fréquence correspondante. Elle ne dépend que des nombres quantiques nr et l à cause de la variance de la rotation autour de n. Et elle vaut oméga 0, racine carrée de 2nr carré plus 2nl plus 3nr plus l. Voilà donc les modes. Donc vous voyez, les modes sont caractérisés par le moment cinétique l, la composante du moment cinétique du nombre de la classe s, et un nombre quantique nr, c'est le nombre de nœuds de la fonction radiale. des ondes particulièrement importantes sont ce qu'on appelle les ondes de surface. Et les ondes de surface, c'est par définition, moi ça m'a beaucoup intrigué jusqu'à ces derniers temps, seulement que j'ai compris un petit peu pourquoi on les appelait comme ça. On les appelle ondes de surface parce qu'il n'y a pas de nœud dans la dépendance radiale, et nous allons voir pourquoi dans un petit moment on les appelle comme ça. Donc delta rho, n égale 0, ln, c'est rl à la petite ln de θ. Et à ce moment-là, si je reviens à la formule précédente, si je prends nr égale 0, ceci s'en va, ceci s'en va, ceci s'en va, et la fréquence du nombre de surface, c'est oméga 0 racine de l. Et on les appelle ondes de surface parce que la densité, je vais vous montrer dans un petit moment que la densité de chaque élément du condensat, la densité locale, est conservée au cours du mouvement. Il se déforme, bien sûr, chaque élément du condensat se déforme au cours de la vibration, mais la densité reste constante. Et le volume aussi reste constant. Par contre, bien sûr, la densité varie d'un point à l'autre, mais quand ça bouge, chaque volume, chaque élément du volume qu'on le suit, sa densité reste constante. Donc en particulier, la compressibilité du condensat n'intervient pas. La compressibilité ne joue aucun rôle dans le problème. Et d'autre part, nous allons voir que ces ondes sont tout à fait analogues aux ondes de gravité qui existent à la surface de la mer, et les houles sur la mer. Ils ont la même relation de dispersion. C'est pour ça qu'on les appelle ondes de surface. Bon, alors, effectivement, on va voir qu'on peut les résoudre. Si je reviens à cette équation-là, linéarisée, je prends l'équation pour elle. Si je prends une dépendance harmonique pour delta rho, si je prends d sur dt, l'exponentielle m'interprète à nu oméga 0L, et donc je m'aperçois que delta S est proportionnel à delta rho. Donc, ici j'ai delta S proportionnel à delta rho 0 ln et puissance moins j oméga 0 lc. Et puis ici je m'explique dans les notes, il y a un signe moins que j'ai perdu, donc il faut le remettre, il y a un signe moins ici. Je remplace delta rho 0 par RL YLM. J'en déduis delta V égale h bar sur m gradient de delta S, c'est moins i V sur m oméga 0 de L gradient de RL YLM. Vous voyez, comme je suis dans une onde nr égale 0, le polynôme PNR est une constante, et donc toute la dépendance en R est contenue dans RL YLM. Et donc delta V, c'est le gradient de RL YLM. Et si je prends maintenant la divergence de delta V, c'est la divergence la divergence d'un gradient, c'est le Laplacien, donc je tombe sur le Laplacien de RL YLM, et comme RL YLM est un polynôme harmonique, le Laplacien de RL YLM est égal à 0, et donc j'en déduis que divergence de delta V est égal à 0. Donc, propriété importante des ondes de surface, elles sont de divergence nulle. Comme c'est le gradient, comme s'il n'y a pas de vortex, comme c'est le gradient de S, elles sont irrotationnelles, elles sont non seulement irrotationnelles, mais de divergence nulle. Ça, c'est une propriété importante pour la suite. Alors, le transparent suivant, je vous montre comment on peut, très simplement à partir des équations linéarisées, retrouver directement cette loi de dispersion. J'insiste pas beaucoup, vous corrigez les erreurs qui sont le texte. Je repars donc de l'expression de V sur dt de rho plus divergence de rho delta V. Divergence de rho delta V. De rho 0 delta V, c'est égal à divergence gradient rho 0 scalaire delta V, plus rho 0 divergence delta V. Comme divergence delta V égale 0 pour une onde de surface, mais tout simplement d sur dt de delta rho égale d sur dt delta rho plus gradient rho 0 delta V égale 0. Par ailleurs, j'ai l'expression de rho 0, c'est 1 sur g nul moins v extérieur, donc gradient de rho 0, c'est moins m oméga 0 de r sur g, et l'équation 1,42 ici devient simplement cette relation-là, c'est simple, d sur dt delta rho moins m sur g oméga 0 de r scalaire delta v égale 0, donc corriger aussi, il y a des erreurs sur les notes, en utilisant r gradient delta, r gradient égale r d sur dr, l'équation précédente devient moins u oméga 0 L plus i oméga 0 carré L sur oméga 0 L RL Y LN et puis moins u oméga 0 L oméga 0. Et on vérifie directement, donc je retrouve directement que la loi de dispersion, c'est oméga 0 L égale oméga 0 racine de L. Donc vous voyez, à partir de ces petits calculs, on retrouve, sans faire tout le calcul de Stringari, on retrouve très simplement la loi de dispersion des ondes de surface. Alors maintenant j'en arrive à le point important que je voulais vous mentionner, c'est la conservation de la densité. Donc dans l'équation 42, je reviens en arrière, celle-là, d sur dt delta rho plus gradé rho 0 scalaire delta v, puisque ce terme-là est nul. Je peux remplacer delta rho par rho 0 plus delta rho, c'est-à-dire rho, puisque d sur dt de rho 0 égale 0. Hein, la densité d'équilibre ne dépend pas du temps. Donc je peux remplacer ce terme-là par d sur dt de rho. Ensuite, ici, delta v, c'est v, c'est v0 plus delta v. Et comme v0 est nul, je peux remplacer donc delta v par v. Et gradient rho 0, c'est rho moins delta rho, puisque rho c'est rho 0 plus delta rho. Et à ce moment-là, je peux négliger le terme delta rho, puisque j'aurai ici un terme en delta v delta rho du deuxième ordre. C'est un terme de l'ordre, c'est négligé. Donc je peux remplacer ici rho 0 par rho. Et cette équation, ça s'écrit finalement, cette équation que j'ai écrite ici, ça s'écrit d sur dt de rho plus v gradient rho. On sait que d sur dt de rho plus v gradient, c'est la dérivée hydrodynamique de rho. C'est la dérivée quand je me déplace avec le fluide. Donc je trouve que d sur dt droit de rho est à 0. Ça veut dire que quand je me déplace avec un élément du fluide, la densité ne change pas. Et le volume ne change pas. Donc c'est une vibration à densité locale constante. Donc la compressibilité du condensat n'intervient pas. Et c'est pas étonnant cela qu'on trouve les mêmes résultats pour des gaz parfaits, pour des. L'équation d'état du gaz n'apparaît plus, et on a donc des relations un peu générales. Analogie avec des ondes de gravité. Si vous prenez des ondes à la surface de la mer, elles obéissent à la relation de dispersion oméga 2 égale kg. En fait, les ondes à la surface de l'eau, il y a deux phénomènes physiques qui interviennent. Il y a d'abord la gravité, et puis il y a la tension superficielle. Quand on fait une vague, on augmente la surface et on augmente donc l'énergie. Si la contribution de la tension superficielle est négligeable, on appelle ça des ondes de gravité. Si au contraire la contribution de la tension superficielle est beaucoup plus importante que celle de la gravité, on appelle ça des riplons. D'accord ? Donc je suppose ici qu'il y a des ondes de gravité qu'on peut négliger la tension superficielle. Et à ce moment-là, vous pensez à Landau-Lifshitz, Fahrenheit, du mécanique de Lifshitz, on trouve oméga 2 égale kg. Oméga fréquence des ondes, k le long de ce vecteur d'onde, et g la gravité. Alors appliquons cette formule à la surface d'un condensat sphérique de rayon R. Et alors quel est l'équivalent de g? C'est la force extérieure qui agit sur les atomes à la surface du condensat. Et cette force est la force de piégeage. Avant qu'il se mette à vibrer, quand il est en équilibre. Voilà, il faut que je remplace la force d'attraction, m oméga 0 de r. Le coefficient de m, c'est ce qui joue le rôle de g. Donc je vais prendre la formule ici, oméga 2 égale kg, je vais remplacer g par oméga 0 de r. Donc c'est oméga 0 2, oméga 2 égale k, et je remplace g par oméga 0 2 r. Par ailleurs, l'impulsion, c'est h bar k. C'est égal à h bar k. Et le moment cinétique, c'est r vectoriel p égale lh bar. Donc, je remplace k par p sur h bar, et je vois apparaître pr sur h bar. pr sur h bar, c'est l, et j'obtiens oméga 2 égale l oméga 0 carré, et je retrouve la loi de dispersion oméga égale oméga 0 racine de l. Donc, il y a vraiment, je crois, une analogie profonde entre les ondes de gravité à la surface de l'eau, d'une part, et les ondes de surface à la surface d'un condensat. Je pense que cette Ce petit calcul élémentaire donne. Évidemment, il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est un petit calcul. Il ne prétend pas le démontrer de la plume, mais une fois qu'on a le résultat exact, on peut le réinterpréter de cette manière. Je rappelle aussi ce qui se passe pour un gaz parfait de boson. Pour un gaz parfait de boson, on a l'oscillateur harmonique à trois dimensions, et les niveaux d'énergie sont bien connus. Ils sont là aussi caractérisés par un nombre quantique NR et un nombre quantique L. NR, c'est le nombre de nœuds de la fonction radiale. N, c'est 2NR plus L, c'est le nombre quantique de l'oscillateur harmonique. NX plus NK plus NZ. Et voilà les niveaux d'énergie. L égale 0, 1, L égale 0, 1, 2, et ainsi de suite. Et la séparation entre deux niveaux, c'est N H bar oméga 0, c'est donc 2NR plus L oméga 0. Il faut comparer cette formule, 2NR plus L oméga 0, à la formule de Stringer-Ries, qui est ici, mais c'est pas la même. On va très bien manifester la différence avec un oscillateur harmonique, l'effet de l'interaction conventionnelle manifeste. Bon, alors, je m'arrive maintenant un peu au plan du cours de cette année. D'abord, je résume très brièvement ce que j'ai fait au cours des années antérieures. Ça fait donc plusieurs années que j'ai fait un cours sur la condensation de Bose-Einstein. En 97-98, ça a été le problème de la condensation de Bose-Einstein dans un gaz parfait, en particulier dans un piège harmonique, introduire les effets liés au nombre fini de particules sans passer à la limite n égale infini, introduire les effets de dimensionnalité, ce qui se passe quand on passe d'un piège à deux dimensions, un piège à une dimension. L'année suivante, en 98-99, j'étudie en détail les interactions en termes de champ moyen, les équations de Grotzky-Tchaïkovski, dépendant du temps et indépendant du temps, et la théorie de Bogodubov, qui permet d'étudier les excitations élémentaires d'un condensateur. L'année suivante, 99-2000, ça a été les propriétés de cohérence d'un condensat, les effets physiques liés à la phase de l'onde de matière associée à un condensat, le S que j'ai introduit aujourd'hui. J'ai expliqué, j'ai décrit en détail les expériences mettant en évidence l'interférence entre deux condensats indépendants, comment une phase relative entre deux condensats peut apparaître sous l'effet des processus de détection, et j'ai étudié un certain nombre d'expériences permettant de montrer que la longueur de cohérence d'un condensat est de l'ordre des dimensions du condensat, en particulier une très belle expérience réalisée dans l'équipe de Ted Hens par Thomas Hitzlinger, où ils ont deux ondes de matière sortant d'un condensat et montrant très clairement leur interférence. L'an dernier, ça a été la réponse d'un condensat à divers types d'excitation, en particulier la diffusion d'un photon ou la diffusion d'un atome par le condensat, et ensuite particulier l'étude détaillée des facteurs de structure dynamique et statique. Et j'ai terminé le cours l'an dernier par la description d'un certain nombre d'expériences où on quitte le régime linéaire pour entrer dans un régime non linéaire, où on voit apparaître des effets de diffusion Rayleigh superradiant et des effets d'amplification d'ondes de matière ou d'ondes lumineuses. Alors, le cours que je voudrais faire cette année, donc le thème que j'ai choisi pour cette année, c'est les propriétés de rotation d'un condensat. En effet, c'est un thème qui est actuellement, c'est l'objet de nombreuses études expérimentales et théoriques, et il m'a semblé intéressant de l'aborder. Première question importante, on a un condensat dans un piège, anisotrope. On fait tourner le piège à une vitesse angulaire constante. Est-ce qu'on peut résoudre l'équation de Grotzky-Tchaïkovski dépendant du temps dans le référentiel tournant? La réponse est oui. Quelle est la forme de la nouvelle distribution spatiale de densité? Quelle est la forme du champ de vitesse? Une fois qu'on connaît les champs de vitesse, on peut calculer le moment d'inertie. Quel est le moment d'inertie du condensat? Donc, toute une série de propriétés liées à la rotation. Et c'est ce que je voudrais vous montrer, non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Donc la résolution des questions de Grotzky-Tchaïkovski dans un condensat. Je vous montrerai que le moment d'inertie d'un condensat qui tourne est beaucoup, beaucoup plus petit que celui d'un gaz parfait, d'un gaz de boson, qui n'est pas condensé. Et la superfluidité se manifeste de manière spectaculaire par la réduction considérable du moment d'inertie. Et en particulier, cet effet peut mettre en évidence de manière spectaculaire par l'étude de ce qu'on appelle les modes physiques du condensat. Autre question, y a-t-il une différence de comportement entre le nuage thermique et le condensat? Donc ça fait toute une série de questions qui sont intéressantes. On peut calculer les modes de vibration, les modes physiques, aussi bien dans le régime sans collision que dans le régime hydrodynamique, et étudier la différence avec ce qui se passe pour un système condensé. Ensuite, bien sûr, dans tout ce que j'ai regardé jusqu'ici, j'ai supposé qu'il n'y avait pas de tourbillon quantique. On sait qu'il y a une manifestation extrêmement importante la superficie, c'est l'apparition de tourbillons quantiques avec une circulation de la vitesse qui est quantifiée autour d'une ligne singulière, qui est la ligne du tourbillon. J'essaierai d'introduire la notion de tourbillon quantique, la quantification de la circulation de la vitesse, la structure d'un condensat, à quoi il ressemble, sa stabilité, et également comment peut-on détecter la présence d'un tourbillon par l'étude des fréquences des mostrophes de vibration. Et c'est la raison pour laquelle j'aurais besoin d'utiliser les règles de somme, méthode que je j'introduirai la semaine prochaine. Voilà donc le plan que je compte faire, j'essaie d'y arriver, et il y aura un certain nombre de séminaires qui suivront le cours. Je mentionne en particulier que dans le cours de cette année, je regarderai soit un condensat tout seul, soit un nuage thermique tout seul. Il y a des problèmes extrêmement intéressants et importants qui apparaissent lorsque coexistent dans le piège le nuage thermique et le condensat. À ce moment-là, apparaissent des interactions entre le nuage thermique et le condensat et apparaissent des modes de vibration couplés du condensat et du nuage thermique, l'équivalent un peu des différents sons qui existent dans l'hélium liquide. Alors, je n'aborderai pas ces problèmes dans le cours lui-même, mais Philippe Nozière et moi-même avons invité cette année, sur la chaire d'État du Collège de France réservée aux savants étrangers, le professeur Alan Griffin de l'Université de Toronto. Il va faire deux cours à Paris, le 20 et le 27 novembre. Ces deux cours remplaceront les deux derniers séminaires. Je suis obligé d'arrêter cette année le 27 novembre. Donc, ils remplaceront donc les deux derniers séminaires. Et il parlera du modèle à deux fluides des superficies. Des condensats dans la chaîne, et il abordera un peu ces questions. Voilà donc, grosso modo, donc cette introduction générale terminée.